France Culture, entendez-vous l'écho, Tiffaine de Roquigny.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho de Xavier Martinet. Bonjour Xavier.
Bonjour Tiffaine et bonjour à tous.
Branle-bas de combat dans les banques centrales américaines et européennes. Face à la crise, les autorités doivent trouver de nouvelles armes et font ressurgir le démon de l'inflation.
Oui, et le sorcier n'est autre que la banque centrale américaine, la Fed, qui a annoncé la semaine dernière s'autoriser à dépasser le seuil fatidique de 2% d'inflation. Inflexion, mini-révolution ou tournant historique selon les observateurs, la Fed vient en tout cas de rompre avec 30 ans de politique de grande modération qui consistait à limiter la hausse des prix jugée trop risquée, et elle prend à contre-pied l'inspirateur des politiques libérales américaines, Milton Friedman.
Si on veut regarder les choses en face, il faut reconnaître que l'inflation est la maladie la plus dangereuse pour les sociétés modernes. Rien ne les menacerait plus profondément et plus globalement que de lâcher les rênes de l'inflation.
Voilà, on était dans les années 80. Avec la crise, tout s'est renversé. Friedman prohibait les relances monétaires mauvaises, même dans le but de réduire le chômage, car source d'inflation. 40 ans plus tard, la relance se fait à coups de milliards. Et malgré la baisse du chômage ces dernières années, la faible inflation américaine est préoccupante. Et la Fed prend donc des risques nouveaux. Après s'être aussi engagée dans une politique d'auto-bas, c'est-à-dire l'argent bon marché, l'institution ignore maintenant le voyant d'alarme qu'elle utilisait dans ce qu'on appelait le monde d'avant.
Pragmatique pour certains, révolutionnaire pour d'autres, le changement de stratégie de la Fed interpelle les Européens, Xavier.
Oui, puisque c'est ce jeudi que la BCE doit annoncer sa propre politique, et jusqu'ici, elle s'était fixée 2% d'inflation maximum, et en Europe aussi, c'est moins le démon de l'inflation qui guette que le spectre de la déflation, comme titrait le Figaro. D'ailleurs, en août, pour la première fois depuis 2016, les prix ont reculé. Cette inflation en rase-motte n'est pas tout à fait nouvelle, mais la persistance du phénomène en période de relance accentue le problème, et le risque d'une spirale déflationniste, comme le disent beaucoup, n'est pas loin. Faible demande, pas d'augmentation des profits des entreprises, pas d'augmentation des salaires. Alors sans lâcher les rênes, la BCE ira-t-elle aussi chevaucher le démon des prix qui monte?
En tout cas, voilà la bête libérée, puisque la Fed affirme que l'inflation n'est plus un obstacle au plein emploi.
Oui, elle vient ainsi briser l'une des tables de la loi des politiques économiques de marché, comme écrit le Nouvel Économiste. Cette loi, vous en avez abondamment parlé l'année dernière, Tiffaine, c'est la courbe de Phillips, une étude statistique publiée en 1958 qui suggère une relation inverse entre l'évolution de l'emploi et celle des prix. Plus le chômage est bas, plus l'inflation est forte. Et si tout va bien, il existe une petite zone dans laquelle les deux peuvent être relativement faibles ensemble. Alors causalité directe ou simple corrélation, l'hypothèse, parfois vérifiée, parfois démentie, a aussi été un des terrains de l'affrontement entre économistes néoclassiques et keynésiens, et elle ne se vérifie en tout cas toujours pas aujourd'hui dans la relance. La courbe a donc perdu de sa rondeur pour devenir plus plate. Et en annonçant la nouvelle politique de la Fed le 27 août dernier, son président Jerome Powell l'a balayé d'un coup de pied.
Il y a quelques décennies, quand la courbe de Phillips était plus marquée, l'inflation tendait à augmenter nettement en réponse à un marché du travail plus vif. Et c'était parfois pertinent que la Fed intervienne pour resserrer la politique monétaire et éviter la surchauffe. Mais en passant à une estimation d'un plein emploi inclusif, plutôt qu'un chiffre global, nous disons que le taux d'activité peut désormais grimper au-delà de son niveau optimal sans qu'il faille s'en inquiéter.
Nouvelle compréhension du risque inflationniste, la priorité n'est plus de modérer l'inflation au risque de faire croître le chômage, mais bien de stimuler dépenses et investissements, quitte à supporter plus d'inflation.
Et alors y aura-t-il pour l'Europe un horizon au-delà des 2%? Les banques centrales jouent une partie de leur crédibilité.
Oui, à travers leur influence en tant qu'institution garante de la stabilité des prix et leur capacité à prévoir et envoyer au marché des signaux clairs, bref, à maintenir ou ne pas nuire, du moins à la confiance, au-delà des débats de chiffres, c'est aussi cela qu'il faut préserver. Or, d'une part, le seuil de 2% établi par consensus est aujourd'hui d'autant plus fragile que la mesure de l'inflation sur laquelle la Fed, la BCE ou la Banque Nationale Suisse s'appuient est critiquée. Et puis, la série de politiques non conventionnelles dues aux crises successives sont aussi autant de tests pour cette crédibilité, puisque même justifiées par des circonstances exceptionnelles, les banques centrales envoient là des signaux ambigus. Situation bien résumée par Didier Saint-Georges, l'investisseur dans Le Monde, entre le scénario de ce qu'il appelle le lendemain naufrage l'ancrage déflationniste ou l'ultime reprise keynésienne, la marge est étroite pour que la puissance reflationniste des décisions des banques centrales s'exprime. On verra donc jeudi prochain avec le discours de Christine Lagarde. Déjà l'année dernière, la BCE réfléchissait à abandonner sa cible de 2%, je cite, en autorisant une inflation légèrement supérieure à l'objectif, sans qu'il ne faille immédiatement durcir la politique monétaire. On le voit pas si loin que cela des États-Unis.
Merci beaucoup pour vos éclairages, Xavier Martinet. On vous retrouve demain à la même heure pour un nouveau journal de l'écho.